De retour à Délirium environnemental, troisième et dernière partie d'émission. On a fini la revue de presse, revue de l'actualité pour cette semaine. Mais on vous parle cette semaine en troisième partie d'émission, donc le dossier de fond. On a le plaisir de recevoir M. Benoît Lambert. Vous allez bien?
Très bien, merci.
M. Benoît Lambert est rédacteur en chef du magazine électronique L'État de la planète, qui est en fait affilié à l'Institut du World Watch Institute, qui est en fait un peu la traduction version française, si j'ai bien compris, de ce que l'Institut World Watch fait chaque année. Chaque année, le World Watch Institute publie également un livre qui s'appelle, en anglais, State of the World, mais en français, qui s'appelle L'État de la planète 2005. Et cette année, le titre est tout particulièrement intéressant parce que le titre, c'est Redéfinir la sécurité mondiale. On y lit entre autres que dans le dernier rapport, donc qui est la publication, le livre, c'est la publication du dernier rapport, le titre étant Redéfinir la sécurité mondiale parce que la guerre planétaire contre la terreur détourne l'attention du monde des principales causes de l'instabilité. Donc les actes et les dangereuses réactions qu'elles ont suscitées détournent l'attention des vrais problèmes de l'humanité qui sont ceux de la pauvreté, des maladies infectieuses et du déclin environnemental. On va vous parler plus amplement de ce livre-là, qui est en fait vraiment une référence en la matière. En environnement, c'est vraiment une référence. Mais on va commencer par vous parler d'un magazine qui est disponible gratuitement en version électronique, auquel vous pouvez vous abonner, qui est souvent ici pour nous, à Délirium environnemental, une source inestimable de renseignements. Et j'ai nommé L'État de la planète. Pour le trouver, vous allez sur Internet à delaplanète.org. Donc, première petite question, toute simple. Depuis combien de temps est-ce que ce magazine-là existe?
Depuis donc janvier 2002, on traduit en français donc le magazine de l'Institut World Watch qui s'appelle en deux mots en anglais World Watch. Et donc on le met à disposition gratuitement effectivement sur Internet. On en est au 19e numéro maintenant, mais je voulais préciser qu'on traduit donc je dirais 90% du magazine. Mais en plus, on ajoute nos propres articles, donc pour qui s'adressent plus particulièrement au monde francophone, et on complète également par des audiodiapos, c'est-à-dire des interviews, des meilleurs exemples, des meilleures références dans le domaine de l'environnement, qu'on agrémente, disons, de photos. Hein, de photos, donc de reportages photos qui vont avec ces reportages. Bon, par exemple, actuellement, on a en ligne un reportage sur une maison qui est 100% écologique, c'est-à-dire donc qui ne consomme que l'eau qui tombe de la pluie, qui se chauffe presque entièrement, disons, donc grâce à une serre, grâce à de la bioclimatisation. Et qui produit sa propre électricité également.
Un reportage que j'avais vu de cette façon-là, donc un diaporeportage, c'était un sur les ressources pétrolifères au Darfour et comment c'était exploité par des grandes compagnies au détriment des populations locales. Donc, il y a vraiment tous les types d'enjeux environnementaux. Absolument. Sont traités. Un autre dossier, on en avait parlé, Nicolas Mainville en particulier, le dossier sur la viande que vous aviez fait sur les impacts environnementaux de la consommation viandeuse. Grandes surprises avaient été faites. Donc, les gens peuvent aller sur le site pour lire le magazine. C'est un magazine qui n'est pas disponible en version papier, vraiment seulement en version électronique.
Absolument, ouais, seulement en version électronique. Je dois vous dire que ce magazine a toute une histoire. Hein. On a signé l'accord avec World Watch en 1997 déjà, et donc le magazine est sorti en 2002. Simplement pour dire que les magazines environnementaux, disons, c'est pas une manne financière. On avait étudié un petit peu le marché, on s'est vite rendu compte à quel point c'était risqué, à quel point ça coûte quand même cher de produire un magazine de qualité en tout cas et de le diffuser. Donc on avait choisi, donc on avait mis sur la glace le projet, mais grâce à Internet, bon voilà, l'opportunité paraissait plus réaliste. Donc on a pu développer ce magazine en ligne et finalement on est très content d'avoir choisi le numérique, je dois vous dire, parce qu'il y a des moteurs de recherche et puis que les gens peuvent chercher des thèmes, des sujets. On a basculé sur un programme qui s'appelle SPIP, programme français, donc l'été dernier. Et donc les gens maintenant ont un moteur de recherche, peuvent chercher les sujets qui les intéressent, en particulier les étudiants. Je dois dire que c'est très pratique. Bon, il y a d'autres raisons aussi de préférer, disons, mais on a quand même 700 à 800 visites par jour sur le site maintenant. Il y a 4000 personnes qui sont inscrites à la liste d'envoi. Donc, je dirais qu'après 3 ans, on a une formule qui est à peu près maintenant au point. Elle va pas beaucoup évoluer ou changer dans les mois à venir, en tout cas. Mais il nous a fallu quand même 3 ans pour trouver une formule qui nous plaise et qui soit véritablement au point, disons, parce qu'on n'était pas des experts, on n'est pas du tout toujours pas des experts Internet, mais on a un webmaster qui est un professionnel quand même. Je dois dire que les traductions sont toujours corrigées par un professionnel également, donc c'est une structure qui est semi-professionnelle, si vous voulez, hein. C'est pas une structure de bénévoles ou donc il y a quand même une révision par un professionnel pour ce qui est du français, des corrections et tout ça, mais aussi de personnes qui ont une formation assez solide en environnement.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Nous aussi, Delrem Environnemental, l'émission de radio ici est née il y a environ ça, 3 ans. On a vu une modification dans le décor informationnel en ce qui a trait à l'environnement. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus sur comment le monde de l'information en environnement s'est transformé? Est-ce que vous voyez, par exemple, une augmentation de l'achalandage de la clientèle ou encore la disponibilité des sources? Quoique vous, grande partie, vous faites de la traduction, mais quand même, disponibilité des sources, le nombre de sujets qui sont traités.
Bon, il y a des nouveaux magazines qui sont apparus, hein. C'est l'écologiste, évidemment, qui est un événement considérable.
Qui est la traduction aussi d'un magazine.
La traduction d'un magazine et qui a une solidité financière du fait de la personne, hein, Teddy Goldsmith, qui est derrière l'écologiste. Il faut quand même connaître un petit peu l'historique. Donc, c'est une personne très, très fortunée qui a consacré sa fortune à l'environnement depuis une trentaine d'années. Ce qui fait que l'écologiste existe depuis 1973. Et qui traduit maintenant, la magazine traduit maintenant en français et en espagnol. Donc là, c'est un événement considérable, l'arrivée de l'écologiste sur le marché. Il y a d'autres magazines qui sont nés, la Revue Durable en Suisse, par exemple. Donc, très beau magazine, je dois dire. Par contre, la viabilité financière de ces magazines est pour le moins aléatoire. Hein, ça, malheureusement, c'est un peu l'historique.
C'est des magazines aussi qui sont dispendieux à l'achat pour les consommateurs.
Absolument.
L'écologiste, ça tourne autour de 8-9 $ canadiens.
Absolument.
Donc, ça paraît
et
quand même.
Et la Revue Durable, c'est 15 $ canadiens.
Ah oui.
Donc,
ah,
ça paraît quand même. Donc, d'où l'importance de l'état de la planète en version électronique comme alternative.
Absolument.
Parce que toutes vos archives sont disponibles et c'est possible de télécharger des magazines au grand complet, pas seulement l'article, mais bien un magazine.
Soit tout le magazine, soit les articles en PDF et en HTML sont disponibles, absolument. Bon, il y a aussi une revue que la revue Imagine, hein, que je tiens à signaler également, qui est née à plus de 5 ans maintenant, donc a été lancée par le Parti vert belge à l'époque où ils sont arrivés au pouvoir. Maintenant, ils ne sont plus au pouvoir, donc ils ont un peu moins de sous qu'à cette époque-là, mais c'est un très beau magazine aussi, la revue Imagine. Donc, il y a quand même pas mal de choses, effectivement, qui bougent. Mais nous, notre stratégie, c'est qu'on espère, donc le magazine est gratuit, mais on vend le livre maintenant à partir de cette année en ligne. Donc on espère qu'il y aura une synergie entre le magazine et le livre.
Donc,
c'est pas évidemment le même contenu. Hein,
non, pas du tout. C'est pas un ramassis de tous les états de la planète.
Non, collé, pas du tout.
Si vous permettez, on va s'arrêter tout de suite. Et au retour, on parle donc de ce livre important qui, en fait, émane du World Watch Institute et l'état de la planète 2005 est donc une traduction réalisée par vous. Et donc, vous allez nous présenter un peu cet ouvrage qui a pour titre « Redéfinir la sécurité mondiale ». De retour à Delirium environnemental, je vous rappelle qu'on a toujours le plaisir de s'entretenir avec M. Benoît Lambert, rédacteur en chef de la version électronique, j'allais dire, non, mais du magazine L'État de la planète, qui est disponible au www.delaplanète.org. En deuxième partie donc d'entrevue, on voulait parler avec lui de ce livre qui vient d'être publié, qui s'appelle L'État de la planète 2005, redéfinir la sécurité mondiale. Je trouve ça tout à fait intéressant, et oui, c'est tout à fait dans l'air du temps, sachant que depuis, on va le dire, septembre 2001, on n'aime pas ça, mais disons-le quand même, septembre 2001, le thème de la sécurité est revenu à l'agenda public de façon notoire, et puis que c'est utilisé un peu à toutes les sources, mais surtout pour parler de se prémunir des risques, pas industriels, mais plutôt militaires, terroristes, etc. Et ce que ce livre-là fait ressortir, c'est que non, les risques desquels on devrait s'occuper, ce sont d'autres risques. Donc, si vous voulez, M. Lambert, peut-être nous le présenter rapidement. Vous l'avez traduit, cet ouvrage-là, donc vous devez le connaître beaucoup mieux que moi, qui malheureusement n'y a pas encore eu accès. J'ai pas encore pu le lire au complet.
Ben, disons que le livre a 9 chapitres, donc 220 pages. Et effectivement, de manière transversale, je dirais qu'on essaie de mettre en lumière le fait que la pauvreté, les maladies infectieuses en particulier, le déclin environnemental, ça constitue la véritable axe du mal, hein, comme vous l'avez signalé en début d'émission. C'est cette approche-là que défend l'Institut World Watch depuis déjà 30 ans. Et donc, on publie le magazine et on publie un ouvrage annuel qui s'appelle State of the World, qui est traduit en plus de 10 langues à peu près chaque année. Et donc, cette année, on peut peut-être faire un petit peu le tour des chapitres. Il y a un chapitre sur, par exemple, de définir le rapport entre démographie et sécurité. Contrairement à ce qui est souvent dit, le problème de la démographie est un problème toujours réel. On ajoute à peu près 70 millions de personnes sur la planète chaque année. C'est un poids évidemment environnemental important, mais surtout l'Institut insiste beaucoup sur ce qu'ils appellent les youth bulge en anglais, hein, ces poussées de jeunesse dans certains pays, c'est-à-dire un véritable déséquilibre dans la structure démographique. Et c'est souvent ça qui est très problématique, c'est-à-dire quand vous avez plus de 40% de la population qui est entre 15 et 24 ans, c'est le cas d'à peu près une quarantaine de pays dans le monde, voire davantage. Et bien évidemment, vous ne pouvez pas répondre à la demande en emploi de tous ces jeunes, parce qu'ils n'ont pas de formation encore, parce qu'il faut quand même des moyens pour des investissements pour qu'on ait des emplois pour ces gens-là. Et donc, ça crée souvent des tensions. Bon, il faut dire un autre élément qui est important, et ça a changé depuis 50 ans, c'est qu'il n'y a plus de terres disponibles dans beaucoup de pays. Comme c'était le cas, on pouvait toujours pousser plus loin la forêt, cultiver, et donc les gens avaient accès finalement à une richesse qui était la terre. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, même en Afrique, où la population est relativement faible en termes de, par rapport au continent, mais grande par rapport aux forêts disponibles ou à la terre cultivable disponible, eh bien même en Afrique, il y a évidemment des tensions qui se créent. Évidemment, ça profite à des groupes parfois mal intentionnés, dits extrémistes, mais il faut voir aussi le contexte. Mm-hmm. Souvent, on a parlé des groupes islamistes, par exemple, mais il faut savoir quand même que dans beaucoup de pays, c'est les seuls à fournir un minimum de sécurité sociale. Hein. C'est donc pour ça qu'il y a aussi un rassemblement autour d'idées qui, par ailleurs, peuvent déraper, hein, comme on le sait.
Je me souviens d'avoir lu, justement, dans L'État de la planète, en version électronique, un dossier qui parlait de comment les tensions au niveau des ressources naturelles et de l'environnement au Sierra Leone, au Rwanda, avaient participé à exacerber les tensions ethnoculturelles qu'il y avait eu là-bas. Dossier tout à fait intéressant.
C'est ce genre de constat que fait aussi l'Institut World Watch.
C'est très géopolitique, c'est pas les questions biologiques pure et dure, là,
c'est très géopolitique, mais c'est aussi biologique, parce que si on parle par exemple des maladies infectieuses, il y a des constats qui sont fort intéressants, par exemple par rapport à la fièvre aviaire, par rapport à l'agriculture intensive et ses limites et ses dangers. Donc il y a un élément par exemple qui est absolument qui m'a beaucoup moi frappé, c'est qu'on a réalisé que la fièvre aviaire est probablement, c'est presque confirmé par les scientifiques, venu par les feux de forêt en Indonésie. C'est-à-dire que les feux de forêt ont fait sortir les chauves-souris hein, des forêts, qui sont allées contaminer 1000 km plus loin des fermes. Et évidemment, les animaux n'étaient pas préparés à, disons, au virus qui leur sont tombés dessus. Et donc, ça a créé la fièvre aviaire qu'on a connue avec la crise qui aurait pu être bien pire et qui pourrait dans l'avenir.
Qu'on attend toujours.
Plus, oui, voilà, le véritable danger, il est plutôt devant nous, effectivement. Parce qu'une culture intensive permet la propagation, comme on le sait, des maladies à une vitesse, il faut dire aussi dans les milieux urbains, beaucoup plus rapide que dans les années passées.
Donc, un ouvrage vraiment susceptible d'intéresser tout le monde, pas seulement les gens qui s'intéressent à l'environnement, mais aussi beaucoup les gens qui s'intéressent à l'aide humanitaire, au développement international, etc., parce que, justement, on parle de la sécurité redéfinie, mais on parle des pressions sur les ressources naturelles, le genre d'impact que ça peut avoir sur des populations. On parle ici des réfugiés écologiques, et justement, le Haut Commissariat aux réfugiés qui n'inclut pas encore la donnée des pressions environnementales comme arme de guerre ou en tout cas de dissuasion ou de persuasion. Donc, si vous permettez, on s'arrête encore une fois un petit peu ici pour revenir sur ce magnifique ouvrage qui est vraiment une référence que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque. Mais je suis Vous écoutez toujours Delirium environnemental, toujours en dernière partie d'émission, donc on a toujours le plaisir de s'entretenir avec M. Benoît Lambert, rédacteur en chef du magazine L'État de la planète, que vous trouvez à delaplanète.org sur Internet, et également traducteur et éditeur du livre L'État de la planète 2005, 2. Redéfinir la sécurité mondiale. Donc, redéfinir la sécurité mondiale, bien sûr, on dit que justement, la guerre contre la terreur détourne l'attention des vrais problèmes du monde. Entre autres problèmes, on parlait des principales causes d'instabilité, donc les maladies infectieuses, le déclin environnemental et la pauvreté. Mais on dit également que l'interaction entre tous ces problèmes-là, donc pauvreté, maladies infectieuses, dégradation environnementale, est aussi exacerbée par une compétition croissante pour le pétrole et d'autres ressources. Donc, la donnée du pétrole, clairement, un des dossiers qui est bien étayé, bien développé dans l'édition 2005.
Tout à fait. Bon, le problème du pétrole, c'est un problème qui obsède un petit peu l'Institut World Watch, je dirais, depuis de nombreuses années. Une des raisons, c'est qu'évidemment, les hydrocarbures émettent du CO2 et des gaz à effet de serre, mais aussi parce qu'on sait très bien qu'à moyen terme, le pétrole va s'épuiser. Nous, on pense que le pic de la production mondiale, il est très proche, s'il n'est pas déjà dépassé. On ne sait pas exactement. Ce qu'on sait, c'est que 33 des 48 pays producteurs de pétrole ont déjà dépassé leur pic de production. 6 pays de l'OPEP sur 9 ont déjà dépassé leur pic de production. Je vous donne un chiffre que beaucoup de gens connaissent peut-être pas, c'est que les États-Unis ont dépassé leur pic de production, puis les États-Unis, grand consommateur évidemment, à 25% à peu près de la consommation mondiale, en 1970 déjà. Il y a beaucoup de pays qui ont dépassé leur pic de production, même dans les années 50, la Roumanie en 47, par exemple, ou qui étaient des petits producteurs, qui étaient des producteurs importants à l'époque, qui seraient des petits producteurs aujourd'hui. Mais ce que l'on sait, c'est que là où il y avait beaucoup de pétrole, on a déjà trouvé. Ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est les résidus, c'est les petits puits un peu éparpillés sur la planète qui sont parfois beaucoup plus cher à extraire, c'est du pétrole plus dense. En plus de ça, évidemment, alors qu'on devrait avoir une décroissance de la consommation, je dirais de 2 ou 3 % par année pour prendre la bonne direction, on a une croissance de la consommation de 2 à 3 % par année. Hein. Donc l'année dernière, par exemple, juste la Chine a augmenté de 800 000 barils sa consommation journalière. On est à 82 millions de barils consommés par jour. Et au rythme actuel, on va être très rapidement à 90 millions de barils par jour. Ce qui veut dire qu'en réalité, le pic de la production nous arrive de plus en plus vite. Et l'épuisement de la ressource va être de plus en plus rapide. Il va y avoir une accélération, en tout cas au rythme actuel, on va avoir une accélération. Alors, qu'est-ce que propose l'Institut World Watch? Bon, ben, ça fait déjà des années qu'on le propose, c'est de passer évidemment aux énergies renouvelables. Mais parfois les gens se disent, oui, mais les énergies renouvelables, c'est pas très concret, on voit pas très bien, la technologie produira pas en quantité importante. Alors c'est faux, on a déjà multiplié par 100 la puissance des éoliennes depuis 20 ans, et ce processus-là pourrait s'accélérer et on pourrait arriver à des ressources renouvelables et non polluantes d'énergie.
Et donc ça me fait peut-être souligner à l'attention des auditeurs que ce livre-là bien sûr parle de l'état de la planète, donc des problèmes qui affligent l'environnement, mais également des opportunités et des solutions qui sont possibles de mettre en place pour remédier à ces problèmes-là, justement, ouais. Peut-être les chiffres concernant l'énergie, les énergies alternatives.
Je dirais que c'est une caractéristique de l'Institut World Watch, toujours mettre de l'avant les meilleures pratiques, les solutions, parce qu'effectivement, bon, les problèmes, on les connaît maintenant. Par contre, ce qui émerge maintenant, c'est véritablement, disons, un profil de ce à quoi ressemblerait une économie qui serait durable. Et ce n'est pas le cas il y a 30 ans, c'est tout à fait nouveau. On a des modèles, on a des exemples, des bons exemples. Il s'agit maintenant de multiplier les bons exemples.
Et donc, vous en donnez plusieurs bons exemples. Et dans ce livre-là, et sur le site Internet, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Peut-être simplement en terminant, dire que cet ouvrage-là a été préfacé par Mikhail Gorbatchev, ce qui est quand même surprenant et intéressant. Mais vous nous disiez tout à l'heure pendant la pause que c'est lui qui a créé l'organisme, la Croix Verte, groupe qu'on devra découvrir parce qu'on ne le connaît pas tellement ici. Donc, l'état de la planète, pour se le procurer, vraiment, je pense que c'est une Bible. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants qui voient en 2005, là, c'était quoi l'état de la planète pour savoir l'état du carnage qui a été fait peut-être jusqu'à leur arrivée. Donc, vous pouvez vous procurer ce livre-là sur le site de laplanète.org, www.delaplanète.org. Si je ne me trompe pas, il est à 29 $ canadiens. Pour ce type d'ouvrage-là, c'est un prix qui est raisonnable. Donc, M. Benoît Lambert, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On aurait pu en parler encore longtemps.
Merci à vous.
Merci.
Malheureusement, déjà la fin, ou heureusement, parce que c'est rendu l'heure des coups de cœur, coups de masse, et au calendrier, cette semaine. Allez, on se fait plaisir, Nicolas.
Eh bien, j'envoie malheureusement un coup de masse à M. Mulcair, malgré ses prestations intéressantes dans les consultations publiques développement durable. Il a dû prendre position sur sa fierté à diminuer le budget du ministère de l'Environnement. C'est selon moi une honte. Nous sommes confrontés à des pertes drastiques dans les activités du ministère de l'Environnement comme tel, et aussi une perte de crédibilité. Donc, c'est en injectant de l'argent qu'on va pouvoir augmenter sa crédibilité et non pas en enlevant. Donc, blâme à M. Mulcair qui a pris position. Claire, c'est lui qui a diminué de 8% le budget du ministère de l'Environnement et il en est fier.
Moi, j'envoie un coup de cœur en l'air. La capacité mondiale de production d'électricité éolienne a progressé de 20% l'an dernier seulement. Et malheureusement, là-dedans, le Canada a pris seulement une part d'à peu près 2%. C'est l'Allemagne qui fait le grand jeu là-dedans.
Le grand virage vert. Je ne sais pas quand est-ce qu'au Canada, on va comprendre qu'avec le vert, il y a une pièce à faire. C'est le temps d'investir dans l'éolien. Moi, j'avais de l'argent, c'est sûr, c'est ça que je ferais. J'y vais, j'arrête de vous parler d'argent. Je vous parle d'OGM. Moi, c'est un coup de masse. gouvernement Charest, à l'ensemble du gouvernement canadien qui continue de faire l'autruche dans le dossier des OGM. Je veux dire, c'est une aberration sans nom. OK, soit je vous parle des problèmes environnementaux qui sont causés par les OGM, soit je vous parle des doutes quant à la santé humaine et des populations, que ce soit de la faune ou de la flore, ou soit je vous parle juste de droit d'accès à l'information. On a le droit de savoir ce qu'on mange, ça n'a pas de bon sens. En cette journée internationale des consommateurs, consommateurs, c'est le temps d'agir. Contactez votre député pour lui dire « Monsieur, ça n'a pas de bon sens. La commission que vous avez payée au gros prix cet été vous disait barre en barre. C'est le temps d'agir. Agissez. »
Eh bien, en cette année provinciale du développement durable... vous savez qu'on est en train d'endetter une société avec ses coupures de 103 millions. J'envoie un blâme solide aux négociations qui sont en train de se passer à la fermeture d'esprit du gouvernement Charest. Malheureusement et heureusement, il y a un méga mouvement de grève en ce moment. Et je lève mon chapeau à tous étudiants et étudiantes qui prennent part à ce mouvement. Ça nous implique directement et je crois que plus l'implication est bonne, plus on va faire bouger les choses.
Continuons le combat.
Justement, en parlant de la grève, j'en profite pour moi, vous annoncer cette semaine, Étienne Côté-Paluc qui prend le micro pour cette brève intervention, pour vous annoncer en fait le rendez-vous pour la manifestation de ce mercredi 16 mars. Donc tout le monde est attendu pour le départ de la grève à 15h30 devant les bureaux du ministère de l'Environnement du Québec au 600 rue Follum. Donc tout le monde en grand nombre. En fait, ce qui est intéressant, cette manif-là invite tous les étudiants, mais aussi tous les gens de la population qui supporte ce mouvement-là. Donc, allez-y en grand nombre. Ça vaut vraiment la peine de donner un petit coup de pouce à des gens qui en ont bien besoin, puisque c'est parmi les plus pauvres qu'on a enlevé. C'est envers les plus pauvres, plutôt, voilà, qu'on a enlevé cet argent. Donc, ça vaut la peine. Cet après-midi, donc 15h30, devant les bureaux du ministère de l'Environnement du Québec, 600 rue Follum.
En fait, c'est le beaucoup. Ministère de l'Éducation, mais on s'entend.
Oui, c'est du environnement. Je trouvais ça là, je dis. À tous ceux qui vont éteindre leur voiture plutôt que de la laisser tourner au ralenti, vous allez économiser 25%. Vous allez atteindre à hauteur de 25% votre défi d'une tonne, parce que rouler 10 minutes par jour de marche au ralenti un moteur peut vous coûter 70$ par année de carburant gaspillé. Là, on parle de votre argent que vous gaspillez, mais si on parle au gaz à effet de serre que vous n'émettrez pas, chapeau, moi je vous fais tout de suite mon petit coup de cœur.
Moi, j'aimerais envoyer un gros coup de masse à tous ces foutus promoteurs urbains qui essaient de nous passer des power centers, des méga centres commerciaux qui nous rendent entièrement dépendants à l'automobile dans nos villes. Il y en a un qui est sur le point de passer dans Hochelaga Maisonneuve. Ça passera pas. On n'en veut pas.
Ben, surtout pas dans Hochelaga. Hey, c'est déjà la fin, malheureusement. Le rythme environnemental s'est rendu possible grâce à une équipe magique en studio cette semaine avec moi, Nicolas Mayville. Merci beaucoup, Hugo Lachapelle. Merci beaucoup, notre invité, M. Benoît Lambert. Merci beaucoup à la régie mise en onde, conception du site web, bien entendu, Étienne Côté-Paluc. Les participants, en fait, les collaborateurs absents, c'était Patrick Bonin et Nicolas Milo, qui devraient être parmi nous. Beaucoup de cœur à Patrick Bonin qui a présenté un mémoire dans la consultation pour le plan de développement durable. Bravo Patrick, on est avec toi comme toujours.
C'est too much.
Moi, c'était Sofiane Legendre au micro cette semaine et la semaine prochaine aussi, certainement. Avec beaucoup de plaisir, on vous retrouvera pour un autre délirium environnemental, parce que vraiment, des fois, il faut pas délirer.
Mais il fallait voir M. Mulcair, par contre.
Il a son bel accent. J'imagine.